Bonjour, le secrétaire général, vous rendre compte de la séance de la commission OTAN-Ukraine et ensuite il pourrait répondre à un certain nombre de questions. Oui, bonjour, nous venons de terminer en effet une séance de la commission OTAN-Ukraine. Nous avons parlé de la sécurité, nous avons parlé des réformes et nous avons exprimé notre soutien. La situation dans l'est de l'Ukraine, provoquée par les agissements de la Russie, reste inquiétante. Les violations du cessez-le-feu se multiplient de jour en jour et les observateurs de l'OSCE continuent d'être entravés dans l'exécution de leur travail pourtant important. Les accords de Minsk restent la voie de l'atteinte d'une solution durable. Il faudrait de toute urgence que les accords de Minsk soient pleinement mis en œuvre par toutes les parties. Nous restons fermes dans notre attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Les alliés ne reconnaissent pas et ne reconnaîtront pas l'annexion illégale et illégitime de la Crimée. Et nous continuerons à en appeler à la Russie de cesser de déstabiliser l'Ukraine. La Russie doit cesser de soutenir les combattants et retirer ses forces et ses équipements militaires du territoire ukrainien. En réaction aux actions de la Russie, l'OTAN a renforcé son soutien à l'Ukraine. Notre niveau d'engagement politique et pratique depuis 2014 est tout à fait sans précédent et aujourd'hui, nous avons décidé d'aller encore plus loin. Les ministres ont approuvé un ensemble complet de mesures d'assistance en faveur de l'Ukraine qui réunit tous les axes de notre soutien. Donc cet ensemble complet de mesures nous permettra d'offrir des conseils, de l'assistance. Il s'agit d'aider l'Ukraine à mettre en place des structures de défense et de sécurité plus efficaces et plus efficientes. Il s'agit aussi de renforcer le contrôle civil de ces instances aussi. Nous avons déjà passé la mise en œuvre de projets en vertu de fonds d'affectation spéciale mis en place pour l'Ukraine, notamment sur le commandement et le contrôle, la logistique, la cyberdéfense et la rééducation de soldats blessés. Et nous mettons sur pied de nouveaux projets pour ce qui est notamment de contrer la guerre hybride et éliminer les engins explosifs. L'Ukraine s'est dotée de plans ambitieux de réforme de son secteur de la défense et de la sécurité. Aujourd'hui, le ministre Poltarak nous a présenté la feuille de route de la réforme de la défense pour l'Ukraine, soit le bulletin de défense stratégique, la modernisation des forces armées ukrainiennes alors qu'elles prennent part à des conflits. Ce n'est pas un mince exploit, mais l'Ukraine avance bien à cet égard. Elle est attachée à poursuivre les réformes. Cela très important et nous saluons ses efforts. Et ce sera avec grand plaisir que nous allons retrouver le président Poroshenko au sommet de Varsovie. Cette réunion au niveau des chefs d'État et du gouvernement manifeste de manière indéniable l'attachement de l'OTAN à la stabilité et à la sécurité de l'Ukraine. Et j'attends vos questions maintenant. D'abord Reuters, en première rangée. Oui. Dans le dernier rapport en date de l'OSCE, on constate plus de 150 explosions dimanche soir, des tirs d'obus de mortier. Et, on a endommagé un immeuble. Alors, combien de temps pourrez-vous encore prétendre qu'il existe un cessez-le-feu? Réponse. Bien entendu, il y a des violations répétées du cessez-le-feu et nous avons constaté de nombreuses violations depuis longtemps déjà. Le conflit fait de nombreuses victimes, des soldats ukrainiens notamment, qui sont morts. Et tout cela met en lumière les dangers et l'instabilité, qui caractérisent la situation dans l'est de l'Ukraine. Mais nous ne voyons pas d'autre solution que la pleine mise en œuvre des accords de Minsk. Cela reste la meilleure possibilité de trouver une résolution pacifique et négociée. la crise en Ukraine. Effectivement, on a essuyé de nombreux revers, il y a eu de nombreuses violations du cessez-le-feu et souvent les observateurs de l'OSCE ont été entravés, on leur a compliqué la tâche, notamment lorsque des drones utilisés par l'OSCE ont été abattus, drones utilisés pour surveiller le respect du cessez-le-feu. Alors, la situation reste grave, mais nous restons attachés à la mise en œuvre des accords de Minsk. Unia, à la première rangée. Oui, Irina Sommer, de l'agence Unian. Au terme de cette réunion d'aujourd'hui, qu'attendez-vous exactement de cette réunion à Varsovie avec le président Porochenko? Eh bien, je m'attends à ce que cette réunion des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'OTAN et du président Porochenko nous donnera l'occasion, une fois de plus, de confirmer la volonté inébranlable de l'OTAN de soutenir l'Ukraine de manière très appuyée sur le plan politique en faveur de son intégrité territoriale et sa souveraineté. Ce sera l'occasion aussi de faire état de nos mesures de soutien pratique à l'Ukraine. Nous aidons l'Ukraine à mener ses réformes, réformes qui visent la modernisation du secteur de la sécurité et de la défense de l'Ukraine. Les pays membres de l'OTAN apportent différentes mesures d'assistance à l'Ukraine grâce à nos fonds d'affectation spéciale. Nous avons des conseillers. Et il y a aussi cet ensemble complet de mesures que nous venons d'adopter. Et bien sûr, à cette réunion, nous allons insister sur la nécessité pour l'Ukraine de continuer à contrer la corruption et de moderniser les différentes instances étatiques, dont les institutions de la défense. Il s'agira notamment de veiller à ce que les instances politiques et démocratiques exercent leur contrôle sur les forces armées. Voilà, c'est l'une des questions que nous avons évoquées aujourd'hui. Oui, je suis de l'agence RBC russe. L'agence d'approvisionnement et de soutien de l'OTAN vient de passer un accord avec les forces armées ukrainiennes. D'après certaines sources médiatiques, il s'agit d'un accord qui prévoit l'approvisionnement en armes. Réponse. L'OTAN ne détient pas d'armes. L'OTAN ne revend pas d'armes. Donc, nous ne sommes pas en mesure de fournir des armes à l'Ukraine parce que nous n'en avons pas. Cela dit, différents pays alliés de l'OTAN peuvent passer divers accords avec l'Ukraine. Je ne peux pas vous donner des précisions sur toutes ces activités bilatérales qui ont lieu. L'Ukraine reste un pays souverain qui a tout à fait le droit d'acheter des armes si elle le souhaite, mais cela ne passe pas par l'OTAN parce que l'OTAN, de toute façon, ne détient pas d'armes. Monsieur, à la première rangée. Vladimir Runets, du canal 24 de l'Ukraine. La Russie vient de libérer des prisonniers, donc nous avons deux Ukrainiens qui ont pu rentrer chez nous. À votre avis, est-ce que c'est un geste en faveur de la paix de la part de la Russie? Est-ce que cela correspond à des intentions de la Russie de faire la paix? Réponse. Oui, je salue cette libération de détenus. Tout cela est prévu dans les accords de Minsk, mais comme je l'ai déjà expliqué, nous constatons tant et tant de violations des accords de Minsk et du cessez-le-feu. Alors nous sommes loin d'être au bout de nos peines. Nous continuons de constater des violations du cessez-le-feu et nous constatons que les observateurs de l'OSCE ne peuvent pas intervenir comme prévu. Itartas.
Monsieur le secrétaire général, en Russie, hier, il y a eu de nouveaux exercices surprises. Est-ce que vous avez des contacts avec les Russes au sujet de ces activités militaires? afin d'aider à la transparence pour ce qui est des activités militaires, transparence entre l'OTAN et la Russie? Merci. Réponse. Oui, nous avons pu en effet lire des rapports s'agissant de ces exercices surprises. Et cela fait maintenant longtemps que nous constatons à intervalles assez réguliers de tels exercices. Et l'une des difficultés dans le cadre de ces exercices impromptus, c'est que les accords prévus dans le document de Vienne, par exemple, ne sont donc pas respectés, à savoir la notification des exercices. Donc ce type d'exercice surprise sape la transparence et la prévisibilité, et cela rend tout mécanisme de transparence et toute observation des exercices impossible. Donc cela se fait régulièrement depuis un certain temps maintenant, et c'est pour cela que l'OTAN appuie tous les efforts visant à renforcer les mécanismes en place qui permettent d'avoir plus de transparence et de prévisibilité, notamment par le biais de la modernisation du document de Vienne. Cela devrait également s'appliquer pour ces exercices surprises. Nous devrions pouvoir avoir des inspections également impromptues. Donc cela souligne bien l'importance de la modernisation du document de Vienne et du renforcement des mécanismes de transparence et de prévisibilité. Question ? Monsieur le secrétaire général, pouvez-vous nous préciser quels montants ont été débloqués par les pays de l'OTAN afin de soutenir l'Ukraine pour ce qui est des conseils, des formations, etc. Et quelle est votre évaluation des progrès réalisés dans le cadre des réformes dans le secteur de la défense en Ukraine? Réponse. L'Ukraine progresse pour ce qui est de la mise en œuvre des réformes dans le secteur de la défense et de la sécurité. Monsieur le ministre Poltorak a bien mis en lumière l'importance de l'engagement de l'Ukraine envers la mise en œuvre de ces réformes. Notamment pour ce qui est des réformes dans le cadre des forces armées ukrainiennes. Alors je vous l'ai dit, un élément essentiel, c'est le contrôle démocratique, également la lutte contre la corruption. Mais il reste encore beaucoup à faire et c'est pour cela que nous continuerons à soutenir l'Ukraine. C'est pour cela que nous avons donc approuvé cet ensemble complet des mesures d'assistance en faveur de l'Ukraine. Nous pouvons ainsi aider, conseiller à Kiev, en Ukraine, pour la mise en œuvre de ces réformes. Ces réformes sont importantes, certes, pour l'Ukraine, également pour leur capacité à mettre en place un secteur moderne de la défense et des forces armées modernes. L'OTAN fournit un soutien à l'Ukraine de façon diverse. Tout d'abord, nous avons des conseillers à Kiev et nous avons également ces fonds d'affectation spéciale. Mais en plus de cela, nous avons des arrangements bilatéraux. Le Royaume-Uni, par exemple, lors de notre réunion, a mentionné l'entraînement qu'ils fournissent aux forces armées ukrainiennes. Et donc, il y a différentes façons de soutenir l'Ukraine. Je ne peux pas ici vous donner des chiffres précis, puisque nous fournissons une aide de différentes manières. Question, Radio Liberty. Lundi, vous nous aviez promis des détails concernant l'ensemble complet des mesures d'assistance en faveur de l'Ukraine. Est-ce que vous pouvez maintenant nous donner des précisions et nous dire quand cet ensemble complet de mesures sera mis en œuvre? Réponse. Cet ensemble complet de mesures d'assistance sera entériné au sommet de Varsovie. Il réunit tous les axes de soutien de l'OTAN. Il s'agit ici de conseils, d'assistance. Il s'agit des fonds d'affectation spéciale portant sur la logistique, de la lutte contre les engins explosifs improvisés, du commandement et du contrôle, de la réadaptation médicale. Il s'agit également d'autres fonds d'affectation spéciale et d'autres activités qui sont réunies dans le cadre de cet ensemble complet des mesures d'assistance. Notre objectif ici est d'avoir des structures de défense et de sécurité plus efficaces. Nous aurons donc des conseillers qui assisteront les Ukrainiens à atteindre cet objectif. Nous souhaitons également renforcer le contrôle civil des structures de sécurité. Nous lancerons également la mise en œuvre de nouveaux projets. Cela porte principalement sur la lutte contre les engins explosifs improvisés. Il y a également une dimension de lutte contre la guerre hybride. Et nous allons également travailler sur de nouveaux projets scientifiques, par exemple, comment développer un meilleur équipement et de meilleures méthodes en matière de déminage. Donc il y a un certain nombre de projets concrets qui sont donc intégrés à cet ensemble complet des mesures d'assistance. Nous réunissons donc tous nos axes de soutien jusqu'ici. Agence France-Presse. L'AFP. Question. Donc, depuis le début du conflit en Ukraine, l'OTAN a appelé la Russie à se retirer. Mais où en est la situation? Combien de conseillers, combien d'hommes de la Russie se trouvent actuellement en Ukraine et que font-ils exactement? Réponse. La Russie continue à appuyer les séparatistes de différentes manières. Ils fournissent un soutien matériel, ils fournissent de l'équipement. La Russie fournit également des conseils et d'autres types d'aide. La Russie a positionné des troupes le long de la frontière et soutient directement les séparatistes en Ukraine. Et c'est pour cela que nous allons poursuivre et continuer à exhorter la Russie à respecter pleinement l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. La Russie continue sa montée en puissance militaire en Crimée également, la Crimée qui est ukrainienne. Et donc c'est une violation ici de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Très bien, nous en avons terminé avec cette conférence de presse. Nous vous retrouverons après la dernière réunion de cette ministérielle. Merci.